On s'en va, dit le chef de bataillon. Bondissant en arrière, les fantassins descendirent vers la plaine. Quand ils y eurent rejoint le reste du régiment, ils entendirent le claquement des mitrailleuses laissées sur place et dont les servants devraient décrocher à la grâce de Dieu. Le silence et la nuit enveloppaient chacun de ce qui composait cette longue colonne serpentant à travers la Macédoine. « Faites passer, est-ce que tout le monde suit ?» Il n'y avait plus de troupes, mais une collection d'individus auxquels il était défendu de fumer, de chanter, de parler même, une collection disparate dont les moutons, les mulets, les chariots, les chiens courant tout autour venaient accentuer l'allure bizarre. Les routes, si peu définies, étaient toutes relevées de quelques centimètres de la boue d'une argile tenace. Parfois l'une de ces créatures tombait, se redressait aussitôt. La colonne ne s'arrêtait jamais plus de quelques heures et reprenait sa marche, la nuit, le jour. Elle traversait des Ouds qui rappelaient l'Afrique aux zouaves du convoi. La vitesse ne changeait pas. Une retraite, et non la fuite, mais une retraite si longue, si dure, qu'elle faisait apparaître immense le pays traversé. Si le rythme changeait, c'était du fait de ces sursauts qui animent les trop longues colonnes en marche, des arrêts brusques, des distances rattrapées en se hâtant. Avant d'aborder les défilés, on brûla le matériel inutile. Beaucoup s'acquittèrent de cette besogne de destruction avec une joie sauvage. La vie civile ne leur offrait pas de ces occasions-là. La cavalerie bulgare vit ces épaisses fumées grises à travers le brouillard. Le lendemain, les cavaliers passèrent au milieu des brasiers froids. Le silence imposé aux soldats les renvoyait de l'espoir à l'inquiétude. Un matin, une onde d'insouciance parcourait la colonne. Le soir, les troupiers marchaient tête basse, fatigués, mais surtout accablés de questions qu'ils ne pouvaient pas partager. L'ennemi suivait-il, et pourquoi, ne s'arrêterait-on qu'en Grèce, et les Grecs, faudrait-il aussi combattre les Grecs? Pour passer les cols, ont dû abandonner les ambulances et convoyer les blessés dans des chariots, ou à dos de mulets, ou les porter à bras. On racontait que les Serbes de la tête de colonne avaient dû prendre leur vieux roi sur leurs épaules. Alors que le régiment s'élevait dans la montagne, une fusillade éclata en contrebas, tout près de la ville éphémère que les soldats en retraite venaient depuis des jours habiter pour la nuit. Un foyer sans femme, avait souri Augustin. Un foyer voué à disparaître, emporté après eux. Qui tirait, l'ennemi était-il nombreux? Augustin vit les troupes de l'aile droite, à moins d'un kilomètre, un peu plus haut, s'enfoncer paisiblement dans la montagne. Chaque pas était un effort. Quand en tête on s'arrêtait pour faire le point, pour consulter la carte, les soldats accablés se reposaient debout, jambes écartées, les yeux au sol. Dans la montagne, le brouillard était plus humide et plus froid. Les colonnes convergèrent. Les unités se profilant comme des rochers, apparemment immobiles, troublaient un peu le silence avant de disparaître. Le souffle court, épuisé par les pentes, les soldats se réjouissaient quand même d'avoir quitté les marais, la plaine fangeuse aux maisons éventrées. L'espoir de la dernière côte, du dernier raidillon, les poussait en avant. Enfin ils arrivèrent au sommet, d'où le flot s'écoula vers une campagne moins grise. Jour ou nuit, du haut des montagnes, on ne voyait pas la mer. 21 Romains le Charles-Roux entrait dans les eaux noires du port. Au fond du golfe où elle s'étage, la ville apparaissait aux blessés de plusieurs armées rangées sur les ponts, des soldats de l'Anzac, des Serbes, des Français. Ils voyaient peu à peu grandir les 50 minarets et leurs arbres verts, et en haut de la colline, les remparts turcs aux airs de forteresse et qui, à demi détruits, n'étaient plus que des nids à cigognes. L'air de la mer le cédait peu à peu à l'air de la ville, encore étouffant vers le soir. Une lourde rumeur montait du port et des maisons. Les soldats avaient désappris les bruits de la vie civile. Ils écoutaient dans la fièvre ceux de l'Orient, plus forts, plus captivants que ceux de leur jeunesse avant la guerre. Beaucoup avaient été blessés à Gallipoli. Ils avaient connu là, croyaient-ils, l'enfer. Un soleil droit, des pierres chauffées à blanc, de la broussaille, et le tir assourdissant des canons de marine par-dessus leur tête et quelquefois sur elles. En haut, inaccessible, des Turcs et des officiers allemands. Des vagues de soldats kakis, de soldats bleus, s'étaient élancées successivement sur les grèves étroites balayées par la mitraille. Sortir des tranchées, c'était prendre pied sur une terre plate, désolée, où il fallait courir très vite. Mais au moment de mourir, ils avaient eu devant les yeux le doux, l'absurde spectacle d'une mer scintillante et calme où passaient les bateaux. Ça avait été plus que la guerre, et Salonique apparemment ce serait plus que la paix. Le simple mot d'Orient les avait en fait rêver. Avant l'entrée du port, une vedette de cuirassé approcha le cargo hôpital par le flanc. Un matelot en col bleu se dressa, les mains en porte-voix. « Avez-vous du courrier ? » Ils avaient beaucoup écrit sur le bateau. On envoya trois sacs. Après une demi-heure de manœuvre, trois cuirassés, un grec, un anglais, un français étant déjà à quai, le bateau hôpital fut au mouillage. Les soldats accoudés au bastingage voyaient rouler les tramways. Une foule énorme attendait face à la mer. Elle se divisa pour laisser passer des sections de brancardiers et des ambulances hippomobiles. Le déchargement commença. Saisis par les odeurs et par les cris, plusieurs soldats hébétés s'assirent sur les bornes en pierre, aussitôt assaillis par des bandes d'enfants en haillons. Une petite fanfare, aux uniformes disparates, attaqua Sambre et Meuse. « Sambre et Meuse, tentant, dit un soldat qui débarquait, c'est vraiment la guerre des loufs, la guerre des rastas surtout, c'est genre casbah ici à ce qu'on m'a dit. »